Phil BM Paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Il est là, mesdames et messieurs, comme à chaque vendredi pour terminer cette semaine, mon cher Page, Christian Page, bonjour.
Salut Bernard.
Alors, chronique insolite, les mythes et les complots. Et là, on est raccord avec notre dernier sujet parce que tu vas nous parler de quoi? Un complot à Notre-Dame?
Exactement, un complot à Notre-Dame, et tu vas voir que au centre de ce complot, il y a Monsieur Macron lui-même.
Oh,
en
oh.
fait, Monsieur Macron a été ciblé parce que, rappelle-toi, bon, il y a 10 jours, on se rappelle tous ces images tout à fait incroyables. La cathédrale Notre-Dame était en flammes, et avant même que les flammes ne soient éteintes, Monsieur Macron a fait la déclaration en disant on exclut pour l'instant, l'enquête n'est pas débutée, là, les flammes sont encore là, et Monsieur Macron dit l'enquête sera longue. Mais d'ores et déjà, on peut exclure la possibilité d'un attentat ou d'un acte criminel. Alors, tu comprendras que pour les complotistes, comment M. Macron peut-il prétendre qu'il n'y a pas eu attentat, qu'il n'y a pas eu acte criminel, alors que l'enquête n'a pas encore débuté? Alors,
ben
on avait
oui.
l'impression que M. Macron essayait de déjà de mettre la table.
De manipuler la vérité.
Voilà. Et depuis 10 jours, ces théories du complot concernant Notre-Dame ne cessent de se multiplier. Bon, d'abord, dans un premier temps, je vais tout de suite te faire un aparté parce que depuis que les images de Notre-Dame circulent, il y a plein de gens qui ont vu dans les flammes de Notre-Dame des signes. Hein? Certains ont vu le visage du diable, d'autres ont vu le Christ lui-même apparaître dans les flammes.
Il faut quand même
te dire que ce mécanisme-là est un mécanisme, un biais cognitif qui est bien identifié, qui s'appelle la pareidolie. Notre cerveau n'aime pas beaucoup ce qui est abstrait. Et quand on regarde, et ça remonte à l'époque, on était à l'ère préhistorique, hein, quand on regardait des buissons qui étaient un peu trop denses ou une forêt dans l'obscurité, ça pouvait toujours cacher un ennemi. Donc, notre cerveau a appris à reconnaître des formes concrètes dans l'abstrait. Et c'est pourquoi quand tu regardes des nuages, rapidement, tu vas voir un visage. Quand tu regardes un motif sur une moquette, tu vas voir aussi un visage. Notre cerveau fait ça. Il voit des formes concrètes dans l'abstrait. Donc, évidemment, si des gens regardent des flammes, des images ou un reflet sur une fenêtre...
On va toujours y trouver quelque chose.
On va toujours y trouver quelque chose. Donc, pour les gens qui regardaient Notre-Dame brûler, les gens se sont dit, voilà, je vois le Christ dans les flammes. Et les chasseurs de fantômes, eux, voient sur des photographies prises dans des fenêtres un visage qui rappelle mon oncle Albert qui est décédé. Donc, tu vois, c'est toujours le même mécanisme, c'est la pareidolie. Donc, faut pas trop se préoccuper de ça. C'est amusant, mais ça s'arrête là. Pour ce qui est des théories du complot, alors tu comprendras que les théoriciens du complot ont sauté à pieds joints dans l'histoire de Notre-Dame. Ils ont d'abord accusé le président Macron d'avoir concocté un complot pour détourner l'attention contre les gilets jaune.
Ah,
là,
oui.
Là, tu te dis, c'est quand même beaucoup. Mettre le feu à Notre-Dame pour détourner l'attention des gilets jaunes, c'est beaucoup.
Oui.
Mais on comprendra que la théorie première, c'est celle qui alimente le sentiment anti-islamique. Il y a des gens qui ont fait circuler des vidéos où on voyait Notre-Dame en flammes et on entendait derrière une voix qui disait « Allah Akbar, hein, Allah est grand » pour laisser croire que des musulmans auraient pu mettre le feu à la cathédrale Notre-Dame. C'est vrai que depuis le mois de mars, certains éléments, certaines églises, certains bâtiments à caractère religieux chrétien ont été saccagés ou on a même trouvé un début d'incendie dans une église à Paris. Donc, les symboles chrétiens ont été un peu malmenés depuis le début de l'année par des extrémistes islamistes. Mais de là à prétendre qu'ils ont mis le feu à Notre-Dame, tu comprendras que c'est quand même beaucoup.
Il n'y a aucune information qui permet d'accréditer ça.
Il n'y a aucune information non plus qui va là-dedans. Voilà,
des gens disent
avoir vu des gens sur la toiture au moment où les flammes débutaient, notamment quelqu'un qui avait un gilet jaune. Alors, on a dit, voilà, les gilets jaunes ont mis le feu, mais il s'agissait en fait d'un pompier. Et là, depuis quelques jours, je te dirais, depuis 2 ou 3 jours, on voit s'alimenter, on voit des vidéos qui alimentent le web, où là, on voit toutes sortes de supposés spécialistes en architecture moyenâgeuse utiliser toutes sortes de moyens en disant, bon, ben voici, je vais prendre sur surfaceuse à métal, hein, comme on appelle chez nous un grinder. Mm-hmm. Et là, il le passe sur une plaque de métal et là, on voit des étincelles au-dessus de paille ou de bois, des charpes de bois, et on se dit, voilà, le feu ne prend pas. Donc, on prétend que ce serait des étincelles qui auraient mis le feu, c'est invraisemblable. Donc, tu vois, ces gens-là nous arrivent tous avec leur pseudo-expertise pour dire oui ou non, le feu peut se déclarer dans telle ou telle situation. On nous montre des poutres qui ont été brûlées, d'autres qui sont intactes. Alors, on pose la question, pourquoi la poutre A est-elle intacte et la poutre B est-elle entièrement consumée? Évidemment, tu comprends. Laissons les experts faire leur travail, mais on ne pourra pas arrêter les théories du complot. Tu sais, les théories du complot, les experts le savent bien. On a un problème dans l'analyse des faits historiques. Hein. Dans la vie de tous les jours, Bernard, quand tu fais un effort, tu obtiens généralement une conséquence égale à ton effort. Plus tu pousses, plus ça bouge. Plus tu cours vite, plus tu vas vite. Tu comprends? Donc, c'est un mécanisme naturel. Mais analyser les faits historiques de cette manière-là, ça ne fonctionne pas. Et c'est pourquoi, généralement, les théories du complot s'alimentent à ce biais, disons, de la réflexion qu'on appelle biais de proportionnalité. Il faut que la conséquence soit aussi grande que la cause. Donc, le président Kennedy ne peut pas avoir été abattu par un simple quidam derrière une fenêtre. C'est pas possible.
Donc, tu
comprends, il faut que la cause soit aussi grande que la conséquence.
Alors, ça ne peut pas être juste un ouvrier qui fumait. L'entrepreneur qui embauchait une partie des ouvriers s'est excusé du fait qu'il n'avait pas fait respecter la règle de non-fumeur sur le chantier.
Il se pourrait
que ce soit ça. Très bien.
Donc, les théories du complot, tant et aussi longtemps qu'il y aura des événements marquants dans l'histoire de la société, on va essayer toujours de trouver une cause aussi grande que la conséquence. Malheureusement,
comment tu l'appelles cette règle-là encore? Je trouve
c'est la règle de la proportionnalité. Il faut la conséquence soit aussi grande que la cause. Mais les faits historiques ne doivent pas être conjugués de cette manière-là.
OK, parle-nous du Japon. Du monstre du... Je connais le punch parce que j'ai vu, là, j'ai lu jusqu'à la fin. Mais là, tu vas finalement me révéler l'origine d'un des grands monstres de l'univers.
Ouais, voilà. Donc, en fait, l'incident dont je te parle s'est produit. Je dis pas que l'incident n'est pas vrai. Hein, je vais pas jusque-là. Mais tu comprendras que la coïncidence est quand même extraordinaire. L'incident remonte au samedi 9 mars dernier. Donc, on est en début d'après-midi. Il y a un navire. En fait, c'est un ferry qui fait la liaison là du continent, de l'île principale du Japon vers l'île de Sado. Donc, ce ferry, hein, à ce moment-là, il y a à peu près 200 personnes sur le ferry. Il est affrété par une compagnie qui s'appelle la Sado Steamship Company. Et voilà, alors qu'ils approchent de l'île, ils vont heurter quelque chose. Alors, on parle qu'il y a eu plusieurs blessés graves d'ailleurs. Hein, 13 personnes auraient été blessées grièvement. On parle de 80 personnes qui auraient été blessées. Il y avait à peu près 120 personnes à bord du ferry. Et là, les gens, les témoins disent « Le ferry, c'est littéralement... » arrêté au milieu de la mer, et les gens qui ont regardé par-dessus le bastingage disent avoir vu une créature marine gigantesque avec des tentacules. Évidemment, c'est l'idée du monstre. Le navire est finalement arrivé à bon port, à l'île de Sado, où il a été mis en cale sèche. Et là, on a découvert que le navire présentait une fissure très importante vers l'arrière. En fait, une fissure d'à peu près une quinzaine de centimètres sur la partie arrière à la poupe du navire. Et là, on s'interroge, mais qu'est-ce qui a pu entrer en collision avec le navire? Alors évidemment, comme les gens disent, on a vu une créature avec des tentacules, ça ne peut être qu'un monstre, même si c'est vrai que cet endroit-là, qui est la mer du Japon, est souvent, en cette période-ci de l'année, est souvent occupé par la présence de baleines à bosse. Alors on se dit peut-être que le navire a frappé une baleine à bosse. D'ailleurs, plusieurs navires qui croisent dans ces eaux sont équipés de systèmes qui émettent des très basses fréquences pour éloigner les cétacés des bateaux. Alors, on se dit, peut-être s'agissait d'une collision avec un cétacé. Oui, mais les gens ont vu une créature avec des tentacules. Pourrait-il s'agir d'un monstre? Et là, ça alimente la presse d'abord japonaise. Il y a un écho à travers le monde où on reprend la nouvelle. Mais quand même, il faut savoir que le 31 mai prochain affiche sur les écrans Godzilla, le roi des monstres. Alors, quelle coïncidence qu'un navire heurte une mystérieuse créature marine en mer du Japon, alors que le roi des monstres japonais va envahir nos écrans le 31 mai prochain.
Mais c'est une coïncidence. Voyons donc, mon cher Christian Page, ça n'a rien à voir.
Bernard, le paranormal est plein de coïncidences.
Merci, Christian. À vendredi prochain.
À vendredi prochain. Salut.
Et à vous, tous les éditeurs, merci à vous. Restez à l'écoute sur les ondes du 98.5 pendant toute la fin de semaine. On va être à l'affût des tout derniers développements avec les inondations. Nos journalistes seront sur le terrain. Vous saurez tout. Vous serez bien informés. Paul Hood prend le relais dans un instant. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On pense à vous, les sinistrés. Merci à l'équipe. À lundi.